Vous écoutez France Culture.
Bonjour Caroline Brouet, contente de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, Rwanda, 10 ans plus tard, comment ça va avec la douleur? La suite de notre série à l'occasion de la 20e commémoration du génocide des Tutsis. Aujourd'hui, les Abunzi ou petits tribunaux de village. Sur Terre, une émission proposée par Sonia Kronlund.
Le génocide, c'est devenu un événement éternel.
Les gens avec des problèmes, surtout de terrain, quand ils ne peuvent pas eux-mêmes trancher l'affaire dans leur famille, ils viennent ici devant les autorités poser les plaintes. Nous essayons d'abord de les réconcilier. Nous les attendons évidemment des deux côtés. Si jamais nous ne parvenons pas à trancher amicalement l'affaire, ça va dans les Abunzi.
Celui qui n'est pas satisfait de la décision des instances de base, il se dirige vers les Abunzi. C'est une façon de désengorger les tribunaux.
En 2006, le très volontariste gouvernement rwandais a procédé à une vaste refonte administrative du pays et mis en place une organisation pour le moins impressionnante à 6 niveaux. 4 provinces, plus la ville de Kigali, 30 districts, 416 secteurs, en dessous desquels viennent les cellules, puis les villages et enfin les groupes de 10 maisons. À chacun de ces niveaux, une administration quasi complète, une autorité efficiente et surtout bien informée. Ce nouveau découpage a suivi de près une grande réforme foncière et agraire mise en œuvre en 2005 et achevée l'année dernière visant à déterminer les contours des propriétés afin de délivrer des titres de propriété officiels. Parallèlement, le gouvernement a fortement incité les paysans, qui représentent 85% de la population, à regrouper leurs habitations au sein de villages, Mudugudu, et à ne plus pratiquer un habitat dispersé et incontrôlable. Comme l'écrit Hélène Dumas dans son très beau livre « Le génocide au village », dans certains cas, la réforme foncière a été vécue par les rescapés comme une nouvelle menace de disparition. Elle a réveillé le souvenir des massacres et des spoliations des années 60 et réactualisé le traumatisme des persécutions et des massacres d'avril 1994. Aujourd'hui donc, les questions de partage de terres, de restitution à ceux qui étaient en prison, en exil, aux héritiers de ceux qui ont été assassinés, les histoires de pillage, y compris les plus minimes, de tôles disparues, de bétail abîmé, ne doivent pas être considérées comme de banales querelles de voisinage. Elles permettent concrètement de mesurer ce que cela peut signifier que de vivre au sein d'un voisinage qui a participé à une œuvre commune d'anéantissement simplement 20 ans plus tôt. Chaque centimètre carré de terre est alors un centimètre de culpabilité, de mensonge, de menace, de rancœur, de haine, de traumatisme, de pardon, demandé ou pas, accepté ou pas. Ces petits tribunaux de campagne qui ressemblent un peu à nos conciliateurs de justice ont donc une fonction symbolique supplémentaire. Souvent le président de l'Abunzi fut aussi celui de la Gachacha locale, la juridiction populaire chargée de juger les crimes de génocide sur le modèle de la justice villageoise traditionnelle. Ce sont donc quelques histoires de parcelles, comme autant d'histoires sur la question de revivre ensemble, que l'on écoute jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, sur les collines, autour de Nyamata, dans le Bouguessera. Là, il y a la grande route asphaltée, en fait, qui mène à Kigali.
Cette grande route rejoint Kigali et Burundi, frontière du Burundi.
Et donc ce village ici, donc avec des petites maisons, avec des volets un peu bleus, des tôles, mais c'est des maisons qui ne sont pas en terre, qui sont des maisons en pierre.
Les maisons ont été construites au fond à partir de 1995. Après le génocide, il y a beaucoup de gens qui sont venus de Burundi, d'autres gens rescapés qui n'avaient pas où s'abriter. C'est à ce moment-là qu'on a construit cette Mudugudu. Mudugudu, c'est-à-dire une petite agglomération. Il y a des rapatriés, il y a des boulots qui habitent ici, qui ont été emprisonnés, puis qui sont sortis et revenus. Il y a aussi des rescapés. Donc c'est un mélange. Directement après le génocide, c'était compliqué. Quand tu reviens habiter dans le Mudugudu, raison pour laquelle il y a très peu de Hutus qui habitent dans cette Mudugudu.
Ici, il y a très peu de Hutus.
Bien sûr. C'est obligatoire d'habiter les Mudugudu. Avant, c'était dispersé sur des parcelles de 2 hectares. Maintenant, on vient s'installer tout près des routes, dans des endroits accessibles. L'État contribue, donne des tôles, il assiste aux gens. C'est l'État qui construit ça. Évidemment, avec l'aide de la population, des cotisations, mais c'est l'État qui le fait.
Mais c'est obligatoire pour qui?
Pour les paysans, c'est obligatoire. Ils doivent quitter les parcelles habitées dans le Mudugudu. C'est une politique. C'est une bonne politique, c'est bénéfique parce que là, il y a l'école, il y a l'hôpital, il y a la banque, tu vois.
Mais le paysan qui a vécu dans sa maison, sa parcelle, où ses parents sont nés, ont grandi, il n'a pas le droit de rester là.
Il n'a pas le droit. C'est fini, c'est changé. Oui.
Sous un arbre, il y a un monsieur qui tient une enveloppe.
Il fait partie du comité d'Abunzi.
Abunzi, Abunzi.
Le comité d'Abunzi est composé de 12 personnes. C'est nous qui tranchons les problèmes, les différends entre la population.
Et pourquoi vous avez été choisi, vous?
J'ai été élu par la population.
Donc là, il y a une maison avec un toit bleu. Et puis à l'intérieur, c'est la salle de ce tribunal où on règle les petits conflits locaux. Le président du tribunal.
Bonjour, monsieur. On attend toujours les convocations. On a convoqué des gens, ils ne sont pas encore arrivés. On est dans les préparatifs.
Donc en fait, il y a une caisse en fer grise et à l'intérieur, la salle est complètement vide. Mais à l'intérieur de la caisse en fer vide qui était posée dans la salle, il y a tout le matériel pour juger.
La caisse contient tout le matériel, c'est-à-dire les convocations, les procès-verbaux, les crayons et tout autre matériel relatif au procès.
Et le tissu, là, qu'est-ce que c'est?
C'est un tissu spécial que porte le juge. Les couleurs, ça ressemble aux couleurs de notre drapeau national. Vert, jaune et bleu. Nous mettons ça derrière nos habits habituels. Pour être digne devant la population qui t'ont élu, ça montre votre statut devant le public. Nous sommes élus par nos pères, la population. En fait, nous sommes le comité à l'échelon cellule. C'est-à-dire que plusieurs Mudugudu se réunissent pour se choisir et on trouve 12 représentants au niveau cellule.
Donc là, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Il y a combien de personnes qui ont fait des requêtes aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous avons 4. Je m'appelle Bienmiro Félicien. Je voudrais changer mon certificat de terre. On a saisi ça, ma parcelle, pour y créer une Mudugudu. Il y a plusieurs gens qui vont habiter ma parcelle.
Et qu'est-ce qu'on vous a donné en échange de votre parcelle?
Rien. Rien de rien. On vient, on trace une route, on distribue les parcelles. Toi, tu reçois une parcelle comme tout le monde.
C'est un peu le kolkhoz soviétique, comme les soviétiques avaient redistribué toutes les terres.
C'est presque la même chose.
Une très très grande dame, elle a un petit cahier. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce tribunal ?
Il y a des gens qui ont ravagé ma parcelle. Je venais me plaindre ici. Ils ont ravagé mon pâturage et ont emporté quelques herbes de bétail. J'ai commencé d'abord par me plaindre au niveau Mudugudu. Ils ont refusé de comparaître. J'ai monté jusqu'au niveau, évidemment, supérieur.
Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi ils ont saccagé votre parcelle?
En fait, c'est une sorte de petits bergers qui volent ça. En fait, ils n'ont pas d'herbe et se permettent de voler dans les parages.
Et vous les connaissez? Vous savez qui c'est?
Oui, je les connais bien. J'ai même des témoins au Kirel qui les ont vus.
Qu'est-ce que vous cultivez, madame?
Nous cultivons des maniocs, des haricots, etc.
Vous avez une grande parcelle?
Oui, 2 hectares. J'avais planté l'herbe pour pouvoir faire l'élevage de la vache après. En fait, lorsqu'on n'a pas de vache, ici nous vendons l'herbe. Et voilà, ils m'ont quand même embêté avec.
Et vous connaissez leur famille?
Oui, je les connais bien.
Et vous ne pouvez pas aller voir les parents pour discuter directement avec les parents?
Oui, on en a discuté, mais ils ne veulent pas me payer. Je peux même donner pardon si ils osent demander. Ce qui m'accable un peu, c'est qu'ils ne veulent même pas demander pardon. Ils ne veulent pas accepter, ils disent que je n'ai pas amené les enfants fragrants de riz, alors qu'il y a ceux qui les ont vus. Ils ne connaissent pas. Ils ne viennent même pas comparer. Ça m'énerve. Parce qu'ils continuent à s'en ficher et à répéter les mêmes exactions.
Ils ont peur peut-être.
Peur de quoi? Je suis plus une personne comme eux. Je peux même moi aussi commettre des gaffes et demander pardon. Je ne comprends pas pourquoi. Tu vois, je suis seul à la maison. Il y en a ceux qui se sont mariés, il y en a d'autres qui sont à l'école.
Votre mari, il n'est plus là?
Il est mort en 1993.
Avant le génocide alors?
Mbele à génocide. Oui, nous étions à l'extérieur, donc diaspora.
Comment vous appelez, madame?
Et toi, Thérèse?
Bon courage alors, Thérèse.
Oui, j'ai accepté.
Il y a un vieux monsieur qui est arrivé avec un grand chapeau.
C'était le chapeau à feutre, c'est pour les vieux, surtout qui possèdent des vaches, pour se couvrir quand il pleut.
Et qu'est-ce que vous venez faire, monsieur?
Je suis venu ici pour quelqu'un qui s'est approprié mon bois. Il a ravagé. Je suis venu ici pour qu'on tranche l'affaire. C'est mon fils. Alors que je lui avais donné sa part, il a voulu s'approprier aussi de mon bois. C'est la raison pour laquelle je suis ici, pour savoir pourquoi il a fait ça.
Et il est où, votre fils?
Juste, il habite tout près de chez moi. Il fait le dire, il ne veut pas venir ici. C'est un problème qui date de longtemps.
Donc vous ne vous entendez pas bien avec votre fils?
De façon même qu'il dit qu'il va me tuer un jour, avec une machette.
C'est
pas pour la première fois. Son grand frère m'a coupé avec la machette, tu vois, ce sont des cicatrices.
Le monsieur a des cicatrices sur la figure, aussi sur la clavicule.
Voilà.
Quand est-ce qu'ils vous ont donné les coups de machette?
Dans les années 1994. Pendant le génocide, j'étais hospitalisé à Kigali. Suite au coup de machette de mes propres fils, aucun autre voisin ou paysan comme moi qui m'en veut. Ceux qui sont méchants, ils ont même fait le génocide, m'ont tué comme ils ont tué pendant le génocide.
Et vos fils, ils ont été condamnés?
Celui qui m'a coupé la machette en 1994 n'a pas été emprisonné. Non plus le deuxième, celui qui m'a pris la forêt, lui non plus n'a pas été emprisonné. En fait, ce que je crois, c'est leur maman. Parce que tu vois, je me suis divorcé avec leur maman. Je crois que c'est leur maman qui les pousse à m'attaquer.
Et pourquoi vous avez divorcé?
Elle m'avait volé 360 000 francs rwandais.
Ça fait 360 euros à peu près. Qu'est-ce que vous allez faire alors, monsieur?
Je crois qu'on va envoyer la police pour les attraper et les amener. C'est ce que je pense. C'est le mardi siècle. C'est pas moi seul. Il y en a même qui parvient à les tuer complètement. Ici, c'est le chaos.
C'est le chaos ici.
Il y a même une femme qui dernièrement a tué son frère. Il a tué à la machette de façon que c'était des parties éparpillées qu'on a ramassées pour enterrer. C'était un problème de parcelle. La fille avait donné à son frère une parcelle. Et lorsqu'il a vu que la parcelle prospérait, il a voulu récupérer. Il y a eu des chamailles dont la femme a tué et son frère. Dernièrement, il y a eu une commission qui est venue ici. J'avais demandé qu'on me donne la permission de vendre toute la parcelle pour que je m'en aille ailleurs, sinon ils vont me tuer. Ils me tueront un jour.
C'est quoi votre nom, votre prénom, monsieur?
Kabirigi
Karol.
Kabirigi
Charles.
Moi, je suis Hutu parce que mon père est Hutu, ma mère est Tutsi.
Si on prend
l'ethnie du papa. Je m'appelle
Janvière.
Je suis chargé du développement rural ici dans la cellule de Kibungo. Au fond, ce monsieur Kabirigi a eu toujours des chamailles, des conflits dans sa famille depuis longtemps. Jusqu'à ce qu'il demande divorce avec sa femme. Après le divorce, on a tranché qu'on divise la parcelle en deux parties. Lors de la division en deux, on a remarqué que Kabirigi Charles avait déjà vendu une grande partie sur sa parcelle. Donc le partage était difficile parce qu'il avait vendu une partie et le partage équitable a causé des problèmes.
Et ses fils, ils ont participé au génocide?
Oui, ils ont participé.
Ils ont été emprisonnés.
Génocide.
C'est tout d'abord d'avoir participé au génocide. Pour la deuxième fois, pour avoir coupé le papa, ils ont payé une amende.
À peu près 300 000 francs rwandais.
C'est-à-dire 300 euros. Donc en fait là le tribunal a commencé à se réunir, ils ont mis leurs écharpes, ils ont mis des petits bancs. Mais on ne peut pas rentrer. Ah, c'est une vieille dame, enfin une dame âgée, avec un beau turban rouge et jaune. venez par là. Bonjour madame. Vous pouvez me dire pourquoi vous êtes venue ici ce matin ?
C'était un problème de parcelle, c'est le Mdougoudou. C'était un problème, un voisin qui disait que j'aurais pris une partie sur sa parcelle. Or, c'était faux. En fait, le problème, c'est celui-ci. En 1998, on a tracé les parcelles du Mdougoudou, 25 mètres sur 30, le pan de terre dans l'agglomération, les lotissements, quoi. Et puis, j'avais 25 sur 30, comme tout le monde. Il n'y a pas de clôture. Et le monsieur qui habite à côté de moi a prétendu que j'aurais quelques mètres de plus que les autres parcelles. Il disait que j'aurais pris une partie de son terrain. Et heureusement, j'ai gagné contre lui.
Passé alors, monsieur?
Je suis venu ici poser la plainte à cause de la parcelle de mon père. J'ai été emprisonné pendant 16 ans et de retour, j'ai trouvé que la parcelle était déjà donnée à un autre. C'est-à-dire qu'on a donné en contrepartie à quelqu'un pour que ça soit occupé par un cimetière. C'est-à-dire qu'on lui a donné une partie de ma parcelle pour qu'il cède une partie de sa parcelle comme place de cimetière. C'est l'État qui a fait ça. Ma parcelle n'a pas été transformée en cimetière. Mais plutôt, celui qui a cédé sa parcelle, on lui a donné comme échange une partie de ma parcelle. En fait, c'est dans le système des Imidougoudou. Il n'y a pas de Mdougoudou sans cimetière. Et puis, l'État a la charge de prendre une parcelle et vous donner une contrepartie ailleurs. Comme le monsieur n'était pas là, il était encore en prison, on a profité de son absence pour donner la parcelle en contrepartie à la femme.
Pendant que vous étiez en prison, qui s'occupait de votre parcelle ?
Quand j'étais en prison, ça a été occupé par la cellule, toute la cellule, parce que c'était une parcelle non défrichée. Il fallait défricher ça d'une façon commune. L'État a repris ça parce que j'étais en prison.
Est-ce que c'est possible de me dire pourquoi vous étiez en prison ?
J'étais préjugé coupable du génocide, mais au fond, je n'avais pas fait le génocide. J'ai été condamné, puis par après, j'ai été libéré. Je suis revenu à la maison. Jusqu'à présent, je suis logé. Je n'ai pas de terrain. J'essaie de me plaindre auprès des autorités.
On est juste en face là, du mausolée, du mémorial des victimes du génocide de Tarama. Est-ce que vous êtes déjà allé à l'intérieur ?
Non, je n'ai jamais été. Parce que c'est à peine que je sors de la prison.
Vous êtes sorti quand ?
Ça fait une année que je sors de la prison.
Le monsieur avec la veste jaune s'en va avec son enveloppe. Il passe donc probablement très souvent devant le mausolée, là, et il n'est jamais rentré. Vous êtes déjà rentré, vous ?
Ah, plusieurs fois. Surtout au mois d'avril, chaque jour. Il y a même des veillées qu'on organise ici. Je m'appelle Boutera Rwabishugi Fidel. Je suis chargé de l'état civil. C'est lui qui vous dit qu'il a été emprisonné pour cause de génocide. Ce sont très peu qui acceptent qu'ils ont trempé dans le génocide. Ce n'est pas dire qu'on les interdit d'y entrer. Ce sont très peu qui viennent. Je ne peux pas dire qu'ils ont peur parce qu'ils vivent avec les rescapés. Ce n'est pas la peur, mais c'est la honte.
Il n'y a pas de comparants, il n'y en a pas. Donc s'ils ne sont pas là, les convoqués, c'est une malchance que nous avons.
Ah, donc en fait, on remballe toutes les affaires et il n'y aura absolument rien.
Des quatre personnes, il n'y a personne. Ils me convoquent parce qu'ils ne se sont pas présentés aujourd'hui.
Spawn inside this memory again. One earthbound minute.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre. Rwanda, 20 ans plus tard, comment ça va avec la douleur? Et les Abunzi, reportage Sonia Kronlund, réalisé par Annabelle Brouard, traduction Innocent, Lilitza. Merci à Claire-Lucie, Paulès, merci à Jean-Vierre, aux juges et aux plaignantes de Ntarama, de Mayangue, de Kibungo, aux enfants, à Jean Hatzfeld, à Laure de Vulpian. Sur notre site franceculture.fr, à la page des pieds sur terre, des photos, des vidéos, une bibliographie, notamment des deux livres de Jean Hatzfeld, des trois livres, pardon, qui se situent justement sur ces collines de Nyamata et qui sont quasiment des classiques sur la question du Rwanda et du génocide. Vous pouvez également poster des commentaires, n'hésitez pas. Le Rwanda, c'est aussi notre histoire.
Disappear, wishes and wasted breath that blows us dreaming so far away.
Demain, journée spéciale, retour à Kigali sur France Culture, à ne pas manquer, Rwanda. 20 ans après le génocide, ça commencera dès 6h30 avec les matins de Marc Voinchet en direct de Kigali, qui recevra Jean-Paul Kimonio, Colette Brackman et Cyril Ben-Simon, envoyé spécial du journal Le Monde. Le magazine de la rédaction de Ludovic Piétenu sera aussi en direct de Kigali, suivi de la grande table de Caroline Brouet à Paris, avec notamment Jean Hatzfeld, dont je vous parlais tout à l'heure. Les pieds sur terre, ce sera l'histoire de la Shalom House. Et à 22h15, Hélène Dumas, sympathique, talentueuse et fameuse historienne, auteure du livre Le génocide au village, aux éditions du Seuil. Demain, France Culture, retour à Kigali, une programmation spéciale en partenariat avec Le Monde.